Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, 2 heures de bonne humeur, sans contre-indication pour vos neurones, surtout aujourd'hui, puisque notre thème, les profs de philo de l'histoire, va nous mener à la rencontre de grands penseurs, notamment Arthur Schopenhauer, ce philosophe rieur, qui nous enseignait que toute vie se définit essentiellement par la souffrance, et qui écrivait... La satisfaction que le monde peut donner à nos désirs ressemble à l'aumône donnée aujourd'hui aux mendiants et qui le fait vivre assez pour être affamé demain. Bref, comme dirait mon fidèle acolyte...
L'heure est à la fête.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bon, c'est vrai, Schopenhauer n'avait pas une vision très rieuse de l'humanité, mais vous allez voir que sa vie peut expliquer cela. C'est notre thème du jour. T'as qui en philo ? À l'occasion de la diffusion de la série La Faute à Rousseau, actuellement sur France 2. Oui, Monsieur Rousseau, c'est le nom du prof de philo. On réunit nos profs de philo à nous. Outre Arthur Schopenhauer, j'évoquerai la figure plus solaire d'Aristote, un autre grand prof de philo, lui-même élève de Platon, qui a enseigné durant 20 ans et a été le précepteur d'un certain Alexandre le Grand. Et puis Mathieu, de votre côté, vous nous parlerez d'un prof de philo encore plus drôle que Schopenhauer et Aristote.
Oui Stéphane, c'est fou, rétrospectivement, de se dire que dans les années 80, les élèves de première ont eu comme prof de philo un prof de philo qui commençait chacun de ses cours par
« Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines !»
Avant de devenir un célèbre humoriste, Michel Leeb a été prof de philo assez atypique, vous verrez.
Et avec nous, comme chaque jour, David Castello-Lopez.
Oh, David Castello-Lopez.
Voilà, qui remonte aux origines d'une expression.
Ou d'une expression,
c'est non, pas vous, c'est moi. Non, d'une invention, voulais-je dire.
D'une invention, mais c'est une invention. Aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est les cacahuètes d'emballage. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, j'en ai apporté, alors c'est visuel évidemment. C'est ces petits morceaux de polystyrène expansé qu'on met dans les cartons pour protéger les objets qu'on envoie par la poste et qui ont un inventeur.
Mais on n'utilise pas plutôt le papier bulle ?
Également, mais moi je fais tous les types de matériaux.
C'est un concurrent
du papier bulle, exactement.
Non, c'est pour remplir le carton, il a raison.
C'est vrai.
Faut les deux.
Il faut les deux. Il faut tout pour faire un monde et il faut aussi de la gastronomie avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis. Eh bien, dans la grande famille des fondues, je vais vous parler aujourd'hui de la fondue bourguignonne.
On les aura toutes faites.
On les aura à peu près toutes faites. Qui, comme son nom l'indique, n'est pas bourguignonne.
Ah bon ?
Non. Scoop en perspective fois de plus dans Historiquement vôtre. Et puis Stéphane, elle est douée en histoire, domaine dans lequel elle fait autorité. Elle est en revanche moins calée en philosophie, où ses connaissances sont, disons, plus parcellaires.
Et Socrate était maître nageur.
Bien sûr, et Montaigne, vendeur de chouchous à Saint-Raphaël. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, vous avez raison, d'ailleurs, c'est vrai, j'étais plutôt moins bonne en philo qu'en histoire, oui. Mais aujourd'hui, je vais vous poser plutôt la question, t'as qui en langue comme prof ? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'autre jour, vous avez raconté que le chancelier allemand Konrad Adenauer avait séjourné à la boisserie chez le général de Gaulle. Mmh. On leur avait prévu un interprète, mais ils n'en avaient pas besoin parce que chacun parlait très bien la langue de l'autre. Ben, ça m'a donné envie d'aller regarder quelles langues étrangères parlaient nos rois et nos chefs d'État. Depuis la nuit des temps. Alors je vais vous proposer un petit florilège linguistique, vous verrez.
Enfin Clémentine, n'oubliez pas votre autre prérogative dans cette émission, reste 5h-10, il vous faudra mettre sa rouste quotidienne à Stéphane dans l'épreuve du quiz. Burn to be alive, c'est sanglant, c'est partial, c'est parfois même trafiqué, mais c'est bon. Et tout de suite, prenons un peu de hauteur avec notre premier prof de philo de l'histoire. Quand ses potes demandaient à Alexandre le Grand « Au fait Alex, t'as qui toi en philo ?» Ce dernier pouvait répondre « Moi, Aristote, il est top, un peu cher mais top. »
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il est l'un des trois grands noms de la philosophie grecque avec Socrate et Platon, celui qui a dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Je peux donc, sans réfléchir, affirmer que le très savant Stéphane Bern nous raconte Aristote, le prof de philo qu'on aurait tous aimé avoir.
Socrate, Platon et Aristote. Il y a, c'est vrai Mathieu, une continuité entre eux, presque une filiation. Platon a été l'élève de Socrate et Aristote l'élève de Platon, enfin disons plutôt l'étudiant. Lorsque Aristote quitte la Macédoine pour débarquer à Athènes, il y a 25 siècles, on est en 366 avant notre ère, il a déjà 17 ans et ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Son père, Nicomaque, est le médecin personnel du roi Amyntas de Macédoine, c'est-à-dire le père du futur Philippe de Macédoine et le grand-père de celui qui deviendra Alexandre le Grand. Voilà qui vous situe un peu le niveau de la famille dans lequel Aristote a grandi. Une famille de médecins dont certains affirment qu'elle descendrait du dieu de la médecine en personne, Asclépios.
Pas mal.
Mais Aristote, tout droit venu de la cité de Stagire et qu'on va commencer à surnommer le Stagirite, ça n'a rien à voir avec les stagiaires, hein, voilà. Ne s'oriente non pas vers la médecine, mais bien vers la philosophie. Et donc, vers la star absolue de la discipline, Platon. Un Platon qui règne sur la discipline depuis qu'il a fondé, 20 ans plus tôt, dans les faubourgs d'Athènes, la célébrissime Académie, une sorte d'ancêtre de nos campus universitaires, dont le fronton affichait la fameuse devise « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Dans ce lieu qui, il faut bien le dire, surtout fréquenté par des jeunes gens de la bonne société, Aristote fait ses classes comme élève d'abord, puis comme maître. Pendant pas loin de 20 ans, rapidement, le stagirite commence à se distinguer de Platon. En simplifiant, on peut dire que la curiosité tous azimuts d'Aristote l'éloigne petit à petit de son vieux maître. Pour Platon, notre monde réel n'est jamais que la pâle copie du monde des fameuses idées. Ces sortes de modèles purs, d'abstractions idéales, de modèles de référence, pourrait-on dire. Pour Platon, le cheval que vous croisez dans les champs n'est jamais que l'idée de cheval. On va dire la chevalité. Plus le temps passe, plus Aristote commence à se cabrer face à cette vision qu'il juge, pour être tout à fait franc, un peu fumeuse. Aristote est, après tout, un fils de médecin habitué à observer la nature de très près et il ne voit aucune raison de dédaigner le monde matériel pour avancer dans la connaissance. Ami de Platon, d'accord, mais d'abord ami de la vérité, pour reprendre l'une de ses formules. Et voilà comment, petit à petit, Aristote se détache du maître pour créer sa propre pensée. Évidemment, bien trop vaste pour être résumé en quelques mots. Alors, que peut-on en dire, Mathieu ? Qu'elle se caractérise, merci, par une...
Vous vouliez que je développe la pensée d'Aristote ? Vous voulez qu'on rappelle nos notes en philo au bac ? Je peux, si vous voulez, mais ça va nous prendre un peu de temps.
Mais c'est si loin, vous savez, je n'ai aucun souvenir. Qu'elle se caractérise par une envie de savoir totale. Pour Aristote, l'homme se caractérise parce qu'il a naturellement la soif de connaître. Mais cette masse, il faut l'organiser à l'aide du merveilleux outil qu'est la logique. Aristote divise le savoir en trois grands domaines. Le premier englobe l'art et la création. Le deuxième, ce qui relève de la philosophie pratique et morale, donc la politique. Et le troisième, c'est la science et la théorie. Aristote va passer sa vie à explorer tous ces domaines sans écarter le moindre sujet. Il a un côté encyclopédiste avec sa manière de s'intéresser à tout, de réfléchir à tout. Le même homme est capable de poser les bases de la métaphysique et d'inventer les outils de la logique, puis de fixer les bases de l'histoire naturelle et de la biologie avant de s'intéresser à la rhétorique, à la poésie et à tous les ressorts du langage, avant de s'intéresser à la définition du bonheur, avant de... Oui, vous l'avez compris, Mathieu, c'est infini, il n'y a pas de limite. Et parce qu'encore une fois, Aristote est un pragmatique. Le philosophe essaye d'en fixer les conditions. Le plaisir et la sagesse sont deux bons moyens d'y parvenir, bien sûr. Mais il y ajoute un ingrédient essentiel, la vertu. Et la vertu, c'est ce qui se caractérise par un équilibre entre deux excès. Le courage, par exemple, c'est le juste milieu entre la lâcheté et la bravade. À force de croiser, de recouper, de papillonner, d'étudier absolument tout, quitte à disséquer même ce qui lui tombe sous la main, y compris un caméléon, Aristote se forge une conviction. La réalité a un but, ou pour le dire comme lui, la nature ne fait rien en vain. Il y a une raison à tout. Et plus on remonte la chaîne, plus on s'approche d'une cause première. Ce qu'il appelle le premier moteur, une idée qui permettra aux philosophes du Moyen-Âge occidental, bien plus tard, de dire que tout païen qu'il était, Aristote avait peut-être trouvé la définition du Dieu chrétien. Au beau milieu de cette réalité du monde, qu'il s'acharne à comprendre et à décrire, il y a l'homme, et vous connaissez la formule célèbre, Mathieu, l'homme est un animal politique. On connaît moins une autre phrase très belle pourtant, « Ne vive seul », dit Aristote, « que les monstres et les dieux ». Bref, l'homme est une espèce communautaire, le seul animal capable de réfléchir sur lui-même et de s'organiser en cité, un modèle qu'il juge insurpassable parce qu'on peut, dit-il, l'embrasser d'un regard. C'est beau, non ?
C'est sublime.
Mais c'est un peu triste aussi, parce que Aristote est en train de réfléchir à l'organisation d'un monde qui est en train de disparaître. La Grèce des cités, celle d'Athènes, de Corinthe ou de Sparte, se meurt. Et la Méditerranée avance, elle, à grandes enjambées vers le nouveau schéma mental de l'Antiquité, celui qui verra émerger de vastes empires et des États centralisés, tout cela en partie grâce ou à cause du plus célèbre des élèves d'Aristote, Alexandre de Macédoine, le célèbre Alexandre le Grand. S'il vient en effet de Macédoine, Aristote finit par y retourner pour donner des cours à Alexandre le Grand. Lorsque Platon meurt en 347 avant Jésus-Christ, Aristote pense avoir ses chances pour prendre sa succession à la tête de l'Académie. Mais c'est loupé. Un peu vexé, il quitte alors la ville et passe quelques années à voguer de cité en cité avant de recevoir une invitation qui ne se refuse pas, signée de Philippe de Macédoine en personne, donner des cours à l'héritier du trône, le jeune Alexandre, 13 ans tout juste. En 343, Aristote file donc vers la ville de Péla, pas très loin de Thessalonique aujourd'hui. Il va y passer plusieurs années comme enseignant et comme mentor d'Alexandre. Mais voilà, la politique d'Alexandre ne lui plaît pas tellement. Toutes ses conquêtes à la hussarde, tous ses rêves de grandeur ne collent pas avec sa vision du monde. Alors Aristote retourne à Athènes en 335 et il y fonde la deuxième école de philosophie la plus connue de l'Antiquité, la grande rivale de l'Académie de Platon, le lycée, dont on a d'ailleurs retrouvé l'emplacement exact en 1996. C'est un lieu assez grand où l'on partage son temps entre l'étude dans la bibliothèque, les salles d'exposition ou les salles de classe et la promenade dans ce qu'on appelle le péripatos, cette idée qu'on ne réfléchit jamais aussi bien qu'en se promenant, va donner leur nom aux disciples d'Aristote qui suivent sa doctrine, les péripatéciens. Les péripatéticiennes, oui. Qui n'ont donc rien à voir avec leurs homologues féminines, les péripatéticiennes qui arpenteront les trottoirs beaucoup plus tard. Mais pendant ce temps-là, l'histoire, la grande, continue. Alexandre a conquis une bonne partie du monde connu, à commencer par la Grèce, qu'il a eu tendance à unifier, vous voyez l'image, à grands coups de pied aux fesses, ce qui ne lui a pas valu que des amis. Lorsqu'Alexandre meurt en 323, le monde se souvient soudain qu'Aristote est son ancien professeur. Comme celui-ci n'a pas la moindre intention de devenir un deuxième Socrate, qui a fini, je vous le rappelle, condamné à boire la ciguë, accusé notamment de corrompre la jeunesse, Aristote part se réfugier avec femme et enfant à Chalcis, la ville de sa mère, où il rend l'âme, un an plus tard, à 62 ans. Aristote laisse derrière lui une œuvre riche de 170 ouvrages, dont la plupart ne nous sont pas parvenus, loin de là. Seuls 47 ont été retrouvés. Et cette frustration d'être privé des deux tiers de la pensée d'un philosophe aussi majeur, on en voit la trace amusante dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. Le fameux livre pour lequel on tue des moines dans le roman, c'est un texte perdu d'Aristote, le livre 2 de la poétique, consacré à la comédie. Une preuve de plus, s'il en fallait une, qu'Aristote s'intéressait, mais vraiment, vraiment à tout.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Aristote, le prof de philo le plus cool de la Grèce antique, nous sommes avec une de ses consoeurs plus contemporaines, Annick Stevens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour Annick Stevens, vous êtes philosophe et professeur de philosophie à l'Université Populaire de Marseille. Vous avez publié Aristote, un fondateur méconnu. Aristote est connu, son nom en tout cas. Ce qu'il a fondé, en revanche, est moins connu du grand public.
Oui, effectivement, on sait bien que c'est l'un des philosophes les plus importants de l'Antiquité, mais dès qu'il s'agit d'aller un petit peu dans les contenus de sa pensée, ça devient souvent assez flou, assez vague. Et il faut dire aussi que sa pensée a beaucoup été déformée au cours de l'histoire, d'abord par les courants philosophiques de l'Antiquité, et puis par, bien entendu, les monothéismes qui ont essayé de le tirer de leur côté. Et donc, on a dû, en quelque sorte, à l'époque contemporaine, essayer de le dépoussiérer, de le débarrasser de toute une série de déformations. Et on n'en a pas tout à fait fini, d'ailleurs. Et donc, ce que je propose, moi, ce qui a été un peu le thème de ma recherche universitaire, c'était de essayer de retrouver le sens original de sa pensée, justement, et donc de retrouver ce qu'il avait vraiment fondé et qui est tellement encore important, je pense, à l'heure actuelle.
Est-ce que vous, évidemment, c'est une thèse, ça se résume pas en deux mots, mais est-ce que vous pouvez nous résumer justement l'essentiel de sa pensée, si vous pouvez nous le résumer et nous le synthétiser un tout petit peu, qu'on se trompe plus?
Alors c'est évidemment très difficile à faire en deux minutes, donc je peux vous donner quelques exemples, mais ce sera pas du tout exhaustif. on pourrait reparler de problèmes plus spécifiquement de sciences naturelles et voir que, en fait, s'il est vrai qu'Aristote, évidemment, en sciences naturelles, s'est trompé sur plusieurs choses et qu'on a dû corriger à l'époque moderne, ce qui est tout à fait heureux, il n'empêche que ce qu'il faut voir, c'est à quel point les méthodes scientifiques, la méthode de recherche en sciences a été vraiment systématisée par lui et est toujours, en fait, utilisée par la science en majeure partie. Alors ça, c'est un exemple, j'entre pas dans le détail. On peut aussi dire que, alors, du point de vue de la métaphysique, c'est-à-dire, lui n'utilisait pas le mot métaphysique, il n'existait pas encore à l'époque, mais ce qu'on a appelé, donc, métaphysique dans son œuvre, c'est-à-dire ce qui est vraiment le cœur philosophique, au-delà des sciences naturelles ou humaines, dans le cœur philosophique de son œuvre, vous y avez fait une petite brève allusion, là, il y a cette idée de remonter au principe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remonter au principe? Ça veut dire essayer de trouver les explications qui seraient communes, en quelque sorte, à tout ce qui existe. Donc, c'est des structures ou des propriétés générales qui appartiennent nécessairement à toutes les choses qui existent.
Alors, Annick Stevens, j'ai du mal, moi, à me figurer. Ça ressemblait à quoi une classe avec Aristote? On écrivait sur quoi? Comment ça se passait les cours, entre guillemets?
Alors, comme vous le savez, les écoles de philosophie ne s'adressaient pas aux enfants ni aux adolescents. C'était des écoles plutôt pour adultes, ou pour jeunes, très jeunes adultes. Donc, plutôt à des classes qui peuvent se permettre un certain loisir. On considérait aussi que le savoir s'instaurait dans le dialogue. Et donc, c'était très participatif. Les élèves participaient beaucoup. Alors, si vous disiez pratiquement, donc en pratique, comment est-ce qu'on écrivait, etc. Bon, en fait, comme vous le savez aussi, on écrivait sur papyrus, mais le papyrus était quelque chose de très rare. Et donc, il fallait vraiment l'utiliser très parcimonieusement. Donc, on écrivait le moins possible. Ou alors, quand on écrivait juste pour s'exercer et que ce document ne devait pas nécessairement être conservé, alors c'était sur des tablettes de cire dont on pouvait faire fondre la cire pour retrouver une tablette vierge, la réutiliser.
Vous dites dans votre ouvrage qu'Aristote est souvent présenté, notamment dans les ouvrages d'histoire des sciences, comme le penseur archaïque contre lequel ont dû lutter les scientifiques de l'époque moderne pour fonder la véritable science. En fait, il était moderne, il s'intéressait à tous les sujets.
Ce serait peut-être un peu exagéré de dire qu'il était moderne, parce que c'est vrai qu'il était vraiment profondément ancré dans l'histoire de son temps, mais c'était une époque extraordinaire pour la pensée. C'était une époque où la pensée était extrêmement libre, où on n'avait pas de dogme qu'il fallait absolument respecter et qui empêchait d'explorer certains domaines. On a dû attendre le XVIIIe siècle pour retrouver une telle liberté. Il faut surtout penser à Galilée ou Francis Bacon, des gens qui ont été confrontés à la scolastique, c'est-à-dire des successeurs. Des gens qui se disaient en fait héritiers de la pensée d'Aristote, mais qui en réalité étaient complètement sclérosés, avaient complètement cadenassé le savoir et l'empêchaient d'évoluer. Ce qui n'aurait jamais été l'attitude d'Aristote, qui était vraiment un chercheur allant toujours de l'avant, remettant toujours en question pour aller plus loin. Et donc en fait, il trahissait Aristote, ses scolastiques. Et Galilée, il cherchait surtout à mathématiser, à quantifier, à mesurer les phénomènes. Et donc ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir les mettre sous forme de formules mathématiques. Or ça n'intéressait pas tellement Aristote. Aristote, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir compris de quoi il s'agissait. Donc ce sont des attitudes très différentes vis-à-vis de la science.
Alors on va continuer à parler de nos profs de philo de l'histoire et d'Aristote en particulier avec notre invité, la philosophe Annick Stevens sur Europe 1. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
T'as qui en philo, cette question, on s'en souvient, a hanté nos idées lycées, on comparait. Mais Alexandre Le Grand, lui, a eu un sacré prof, du nom d'Aristote. On en parle avec la philosophe Annick Stevens. Ça avait l'air assez détente, le lycée, il y a 25 siècles, avec des cours en extérieur, dans un jardin. Tout ça, c'est un peu des clichés aussi, ou c'était vraiment comme ça qu'il enseignait? En tout cas, on a bien compris que c'était pas un enseignement au sens strict, c'était plutôt des débats aussi avec des gens qui étaient déjà des jeunes adultes. Mais ça se passait vraiment comme ça, en extérieur, dans un jardin?
En fait, ça se passait dans des gymnases le plus souvent. Mais les gymnases, c'était un endroit qui rassemblait énormément de monde constamment. Parce que, en fait, comme vous savez, les Grecs attachaient beaucoup d'importance au développement physique.
Et oui,
l'harmonie du corps et de l'esprit, bon, en tout cas. Et donc, non seulement on entraînait dans les gymnases les enfants et les adolescents, mais aussi, durant tout l'âge adulte, les hommes continuaient à y aller, comme on voit à la salle de sport, mais c'était très généralisé. Et c'est aussi dans les gymnases qu'il y avait des petites salles qui servaient de classe, y compris de classe élémentaire, de classe de grammaire, de musique, etc. Et c'est là aussi, du coup, que les écoles philosophiques se sont fondées. Donc, alors, ces gymnases étaient dans des jardins, mais enfin, on était quand même dans des espaces plus ou moins couverts, plus ou moins fermés. Et est-ce que c'était détente? je crois pas. En fait, je crois que c'était assez intense. En tout cas, quand on lit Aristote, on se rend compte que c'était très, très, très concentré, très, très, très intense, et qu'on ne le prenait pas, le savoir, tellement à la légère, en fait, dans ces classes.
Mathieu était très impressionné par l'expression péripatéticien. Et alors, j'aimerais que vous donniez quand même un point d'explication quand même sur ce terme, sur les disciples d'Aristote.
Oui, en fait, c'est un terme qui ne se trouve pas, en fait, sous la plume d'Aristote. On le trouve juste un petit peu plus tard. On n'en est pas sûr qu'il s'appelait déjà comme ça tout au début. Très souvent, on appelait les philosophes par une caractéristique de l'endroit où ils enseignaient. Et en fait, le péripatos, c'est simplement le promenoir. C'est le promenoir du gymnase. Et donc, ou bien ils se promenaient, ou bien plus simplement encore, ils s'étaient établis dans un petit coin du promenoir. Ils étaient assis, comme tout le monde, à discuter et à écrire. Donc, très probablement, c'est simplement, ils ont simplement reçu leur nom, comme les stoïciens. Ben, les stoïciens, ça vient de stoa, le portique, parce qu'ils enseignaient sous un portique. Et voilà, c'est très accidentel, en fait, comme terme.
D'un point de vue pratique, la philosophie d'Aristote, elle nous apprend la tempérance ou la recherche de l'équilibre entre deux excès. Comment être dans la juste mesure dans un monde complètement à l'envers comme le nôtre actuellement ? Est-ce que ce qu'on vit en ce moment, ça donne plutôt envie de brûler la vie par les deux bouts, non ? Comment on fait pour rester aristotélicien dans un monde en pandémie ?
Oui, en fait, plus que jamais, Aristote est nécessaire, parce que quand on s'interroge, enfin, comme il le fait, hein, pour lui, l'éthique, c'est la recherche du bonheur, c'est la recherche de la vie bonne, de la vie heureuse, de la vie réussie, et en collaboration avec les autres, puisque bien sûr, hein, comme vous l'avez rappelé, l'homme est un être social, politique, c'est un être qui a besoin de ses semblables, et donc quand on réfléchit au bonheur, on doit réfléchir à l'ensemble de ses ingrédients. Alors la première chose qu'il avance, c'est il faut former les qualités du caractère. Si on a un caractère malheureux, si on a un caractère mauvais, on ne va jamais être heureux. Donc première chose, c'est former des qualités du caractère, donc ça s'adresse évidemment aux éducateurs, hein, ceux qui doivent éduquer les enfants. Et puis deuxième chose, ben, ça sera toute l'action sociale et politique, donc toutes les relations avec nos semblables qui sont indispensables si on veut être heureux. Mais c'est à propos de ces qualités que vous m'interrogez, cet équilibre entre deux défauts, en fait, c'est ça qui doit amener à l'excellence. La vertu, c'est littéralement, c'est l'excellence en grec. Et donc, l'excellence, il y en a pour chacune des attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un problème ou vis-à-vis d'autrui. Et la tempérance, en fait, c'est très intéressant. C'est la maîtrise des désirs et des plaisirs. Donc, c'est la capacité de maîtriser ses propres désirs et de rechercher les plaisirs qui rendent heureux, d'éviter les plaisirs qui ne rendent pas heureux.
Mais ça ressemble à Épicure.
Voilà, exactement. Épicure, qui vient juste une génération après, a évidemment hérité de cette première définition, qui était déjà ébauchée par Platon d'ailleurs, hein, aussi. Mais c'est intéressant de savoir aussi que la tempérance elle-même, elle peut avoir un excès. C'est-à-dire, Aristote, il ne prône pas une austérité totale par rapport au plaisir. Il prône de ne pas être esclave de ses désirs, parce que sinon, forcément, on est malheureux, hein, parce que c'est insatiable, on n'est jamais content, toujours frustré. Ou, au contraire, on se fait énormément d'ennemis, hein, parce qu'on se permet tout. Mais à l'inverse, vous avez un excès de tempérance qui serait l'insensibilité, qui serait de ne s'accorder aucun plaisir, de ne satisfaire aucun de ses désirs, et ça vous rendra profondément malheureux aussi.
Rassurez-vous, donc, Stéphane est à l'abri de ça.
Non, et vous non plus. Mais un dernier mot à Nick Stevens. J'ai essayé, dans un temps révolu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la lecture des textes d'Aristote, et c'était assez ardu. Quand même. Votre conseil pour accéder à la pensée aristotélicienne,
non,
oui. À part lire votre livre.
Oui.
Alors déjà, vous venez de donner une indication précieuse, mais à part celle-là, effectivement, l'écriture d'Aristote, elle est très sèche, elle est pas enrobée d'exemples, de circonvolutions. Elle est très serrée et souvent avec des tas de références implicites qu'on ne peut pas comprendre si on n'est pas déjà familier de sa philosophie. Donc elle est difficile et donc je conseillerais alors en tout premier lieu de, si on veut lire un de ses ouvrages en traduction, de choisir une édition dans laquelle il y a beaucoup de notes explicatives. Et puis par ailleurs, je pense qu'on peut aussi essayer de se mettre à la place d'Aristote, c'est-à-dire non pas se dire « Oh là là, il est séparé de moi de 2500 ans, je ne peux plus comprendre sa pensée », loin de là, il faut se dire « Mais au fond, il se pose à peu près les mêmes questions que nous nous posons maintenant. Donc je vais essayer d'entrer dans le sens de son texte plutôt que dans la lettre de son texte. À ne pas se laisser heurter par des phrases peut-être un peu bizarres ou un vocabulaire pas familier, mais plutôt se dire, mais pourquoi il pose cette question? Qu'est-ce qu'il essaie de savoir? Et pourquoi il prend ce chemin-là pour essayer de le savoir? Et alors, peut-être aussi s'imaginer qu'il est avec un cercle d'élèves, collaborateurs, et que certains énoncent des objections. Parce qu'on a souvent, chez Aristote, toute une série d'arguments avec une réponse à ses arguments. Il se fait à lui-même des objections et essaie d'y répondre. Et ça peut parfois paraître fastidieux parce que c'est tellement exhaustif. Il prend tellement tout en compte que, bon, on se dit, ouais, il n'avait peut-être pas vraiment besoin de ça. Mais si, il en avait besoin parce qu'il y avait quelqu'un dans le cercle qui n'était pas convaincu. Donc, je crois que si on se représente un peu la scène, justement, de l'enseignement...
Bien sûr, c'est intéressant.
On se familiarise un peu plus.
En tout cas, merci beaucoup, c'était très clair. Merci Annick Steven. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Aristote, un fondateur méconnu, paru dans la collection Université Populaire. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous aussi, Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Et elle connaît tout sur tout et sur tout ce qu'on connaît pas nous. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ça rimait presque, c'était
beau. Oui. Oh, vous êtes trop modeste.
Non, mais non. Aujourd'hui, Clémentine, vous savez quels sont les rois qui speak in English, qui habla espagnol, qui sprech Deutsch, bref, t'as qui en LV1?
Exact, exact. Brian is in the kitchen. Qui aurait su dire ça de nos rois les plus reculés? Eh ben, écoutez, pas Vercingétorix, en tout cas.
Il parlait pas les langues.
Il parlait le celte, cher monsieur. Et en rentrant dans un bistrot, il aurait pu dire Nata Wimpi Kurmida, ce qui en gaulois signifie... Exactement, belle blonde, serre-moi une bière. Ah, dis donc, il parle le gaulois, le père Mathieu. Hein. Enfin, il a dû apprendre quelques bribes de latin, puisque César l'a emmené à Rome, où il sera finalement exécuté. Donc, il a dû avoir le temps quand même, là, dans la roche tarpéienne, de dire « Ave César, moriturit et salutant ». Enfin, Clovis, premier roi du Rex Francorum, il parlait une langue germanique. Le francique. Et le premier de nos rois polyglottes, c'est Charlemagne. Celui parlait le francique rhénan, le roman, il lisait le grec et le latin, la langue de l'administration. Ce sont ces rois qui nous sont venus du nord et de l'est, qui ont fait que notre langue est la plus germanisée des langues romanes, ce qui ne vous avait pas échappé, surtout vous qui êtes né en Suisse. Hein. Puis vous, du côté du Luxembourg aussi. Oui. Bien sûr, vous si je spreche en Deutsch. Bien sûr. Bon. Alors, grâce à Hugues Capet, en tout cas, le roman parisien, qui est en gros notre langue, une sorte de bas latin, va s'imposer dans l'ancienne France, mais jusqu'en Angleterre. Par exemple, Richard Cœur de Lion aurait été incapable de discuter avec Robin des Bois. Richard ne parlait que le français. Avec Philippe Auguste, il faisait plus que parler, d'après ce qu'on a raconté. Mais en tout cas,
encore des
poissons. C'est une parenthèse. Toute la correspondance entre Henri VIII et Anne Boleyn est en français. À la cour d'Élisabeth Ière, on passe constamment de l'anglais au français. Et Jeanne d'Arc, prenez Jeanne d'Arc, il s'en est fallu de peu qu'elle ne parle pas le français. Heureusement, elle parlait le dialecte champenois, proche du roman parisien. Mais sinon, on n'aurait pas les belles minutes de son procès qu'on peut lire comme ça in extenso. Tous nos rois parlent et comprennent le latin. Marie Tudor, la première fois qu'elle rencontre son futur époux, le roi d'Espagne, il ne parle pas l'anglais, elle ne parle pas l'espagnol. Ils parlent en latin, tous les deux. Quand Henri III...
Oh là, ça devait être romantique.
Vous vous rendez compte, surtout qu'ils ne se connaissaient pas la veille, ils ne s'étaient jamais vus la veille de leur mariage. Ouais. Quand Henri III part en Pologne pour épouser une Polonaise beaucoup plus vieille que lui, je crois qu'elle a 43 ans et il doit en avoir 25, il ne parle évidemment pas le polonais, elle ne parle pas le français. Donc, il parle en latin. Ah, ça a dû être sympa. Bon, alors, là, je saute quelques étapes. Hein. Louis XVI parlait anglais, il s'intéresse c'est beaucoup aux langues, oui. Napoléon, le corse, naturellement, donc l'italien.
Il parlait anglais, Napoléon pas.
Il a pris beaucoup de leçons d'anglais quand il était à Sainte-Hélène, et c'est d'ailleurs très touchant, parce qu'on a toutes ses notes en anglais. « My son, where is my son ?» etc. Et évidemment, c'est l'unique objet de son assentiment, si j'ose dire, à Sainte-Hélène, c'est de se demander ce que devient son fils. Donc, il faut qu'il puisse parler avec ses geôliers, même s'il leur fait la gueule. Donc, il parle anglais. Celui qui était particulièrement polyglotte, c'est Napoléon III. Il parle allemand, puisqu'il a étudié étudié au lycée d'Augsbourg en Bavière. Il parle anglais, puisqu'il a vécu en Angleterre. Il parle des bribes d'italien, puisqu'il a eu des sympathies pour les irrédentistes. Et il parle le français Napoléon III avec un accent allemand, parce qu'il a vécu à Arenenberg en Suisse. Donc il s'exerçait beaucoup, un peu comme Démosthène, bah, essayer de parler le français sans accent allemand, parce que ça l'affichait mal de prétendre être le futur empereur des Français et de parler leur langue avec un accent allemand. Bon, Georges Clemenceau, je vous en ai parlé.
George Clemenceau.
Il a vécu aux États-Unis. Il a été le prof de sa future épouse Marie Plummer, dont je vous ai raconté un peu les déboires. Il parlait parfaitement l'anglais, Clemenceau. Et alors, bon, bien sûr, j'en reviens à notre cher président, le général de Gaulle, qui avait donc un très bon niveau d'allemand, mais il maîtrisait assez mal l'anglais. Il avait tendance donc à prendre par cœur tous ses discours en langues étrangères, avec un accent parfois coupé au couteau, mais avec pour principe de toujours dire au moins quelques mots dans la langue de ses hôtes. Donc on peut trouver des archives sonores du général de Gaulle parlant bien sûr anglais, allemand, mais espagnol, mais aussi russe et turc. Alors c'est Marchemos, la mano, en la mano, y viva Mexico, voilà, Mexique 64. Et long live to New York and the American people, ça c'est aux États-Unis en 44. Tout ça bien sûr est resté dans les mémoires. Alors après c'est un peu la dégringolade quand même. Nous avons heureusement Valéry Giscard d'Estaing qui était né en Allemagne, donc parlait plutôt bien l'allemand et pas mal l'anglais. Mais alors après, bon, alors on a bien sûr Chirac à Jérusalem en 1996. Do you want me to go back to my plane and go back to France?
Oui, mais alors attention, parce que Chirac, il parlait russe.
Oui, et quelques bribes de japonais, je crois aussi, même. Hein. Oui. Celui qui s'est souvent fait remarquer à l'étranger par ses boulettes en anglais, c'est François Hollande. Oui. Hein.
Oh, et Nicolas Sarkozy, non, il confondait
les deux.
Time and weather.
Exactement, time and weather, et aussi it is magnifique, un mot qui n'existe pas. Mais François Hollande, c'est be proud of you because you can be do what you want to do.
On dirait une chanson.
Et donc Emmanuel Macron en Australie a salué la delicious wife du Premier ministre au lieu
drôle.
De delightful.
Oui, mais
delicious, ça a une connotation sexuelle.
Il aurait vraiment mangé. Mais dites-moi, mais il parle pas mal Macron quand même. Ouais. Il a pas cette petite bévue.
Oui,
il a plutôt un meilleur accent que les autres présidents.
Qui suis-je pour juger? Mais enfin, quand même, on le constate avec tristesse, Stéphane, il est loin le bon temps de l'Empire austro-hongrois. Quand une impératrice ici parlait couramment, en plus de l'allemand, le grec moderne, le grec ancien, le hongrois. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans les monarchies européennes, hein? La reine Elisabeth,
elle parle très bien le français.
Le duc d'Édimbourg parle couramment l'allemand, le français et possède encore quelques rudiments du grec. Le prince Charles parle très bien notre langue. Mais à la génération suivante, c'est terminé.
C'est
le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Harry, ne parlent que l'anglais. Hein,
c'est pas possible, ils ont eu des bonnes études et tout ça, on leur a
enfin,
pas appris à parler d'autres langues.
Pourtant, on sait bien, avec Roger Bacon, que la connaissance des langues est la porte de la sagesse. Mais aussi, comme le disait Charlemagne, le roi polyglotte déjà évoqué, qu'avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme.
C'est très beau.
C'est la langue qu'on parle, on n'aime pas.
Et là, Stéphane vient de sortir sa langue.
J'aime la façon dont vous savez élever le débat, Stéphane.
Oui.
Posséder une deuxième langue.
C'est posséder une deuxième âme.
C'est
avoir
pas mal.
Une autre langue, c'est posséder une deuxième âme.
C'est pas mal, Clémentine. En revanche, vous allez démarrer le quiz en quelques instants avec un point en moins, car il y a une erreur dans votre chronique. Pour une fois que je connais un dossier, vous avez dit que Charlemagne, alors il parlait grec et latin, oui, mais Charlemagne ne savait pas lire. Vous avez dit qu'il savait lire le grec ou que sais-je. Charlemagne, qui a inventé l'école, ne savait pas lire.
Alors, il a tout appris par cœur, ce qui est encore plus fort.
Il était très fort en langue, mais moins en écriture. À suivre le quiz, qui démarre donc à 0 pour Stéphane, moins 1 pour Clémentine.
Oh bah dites donc, non.
Si, j'ai décidé.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Et ses biographes sont très embarrassés par la séquence qui suit, dite du quiz histoire, où il perd lamentablement 3 fois sur 4 et il s'interroge.
S'agit-il d'un accident de parcours dans une carrière brillante?
Certainement, Stéphane. Jouons à Bern to be alive, notre quiz de culture générale dans lequel vous excellez assez rarement. Mais aujourd'hui, vous avez de la chance, Stéphane, vous démarrez avec un point de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je vous ai octroyé comme ça.
Mais
ça, c'est surtout Clément qui démarre avec un point de moins. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Le 12 juillet 1726, le célèbre pirate anglais William Fly est pendu à Boston. On considère que cette exécution marque d'ailleurs la fin de l'âge d'or de la piraterie. Il a été pendu haut et court. Pourquoi cette expression? Il n'y a pas de proposition, après tout, vous êtes Stéphane Bern. Pourquoi dit-on pendu haut et court?
Ben parce que quand la corde est longue, j'imagine,
Vous avez la chance de pouvoir, si vous êtes grand, de pouvoir mettre les pieds par terre et donc de vous en sortir. Quand on pend haut et court, ça veut dire que vous pouvez pas toucher les pieds par terre, vous voyez. C'est-à-dire la corde est courte et on vous pend très haut sur le à la potence.
Ah oui. Ah ça c'est l'explication que vous aurez donnée à l'oral du bac, par exemple, si on vous avait posé la question, vous aurez répondu ça.
Je pense que
c'est ça, vous pensez.
C'est ça, je pense, oui.
Vous avez perdu.
Alors Stéphane, haut pour que tout le monde puisse voir le pendu,
c'est une question.
Et court pour faire des économies de cordes et pour humilier encore plus le pendu. Rien à voir avec le sol.
Bah oui, bien sûr, le principe du gibet de mon faucon, c'est que les fourches patibulaires, c'est que l'exécution doit servir d'exemple. Donc le gibet de mon faucon était sur une butte, et on devait, quand on arrivait dans Paris, on voyait tous les... Il y avait quoi? Je crois qu'il pouvait y avoir une quarantaine de pendus en même temps. C'est un édifice en dur, très spectaculaire. Il fallait voir passer la justice du roi.
On ne peut pas le voir aujourd'hui, cet édifice. Non, ça a été complètement... Oui. Non, mais il n'y a pas une reconstitution.
Je me demande s'il n'y reste pas quelques pierres des fondations du gibet. Il en est resté jusqu'à une époque relativement récente. Quand je vous dis ça, c'est peut-être au XVIIe.
Ah oui.
Oui,
c'est trop récent. C'est pas...
Non, c'est pas pour que les pieds ne touchent pas ça. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Il est mignon, parfois, il est vraiment mignon.
Sur les pointes des pieds.
Une grande naïveté.
Oui, c'est très beau. Évoquons maintenant le célèbre démocrate libyen Muammar Kadhafi. Soucieux des droits humains, en 1988, il a mis en place un prix Muammar Kadhafi des droits de l'homme pour honorer les personnalités les plus soucieuses des droits humains. Vrai ou faux?
Oh, mais bien sûr, c'est ça ce qui est très piquant chez les dictateurs. C'est leur ambition d'incarner les droits de l'homme et leur absolu aveuglement sur ce qu'ils sont réellement. Donc je dis oui, c'est certainement vrai.
Vous avez...
Vous avez gagné en même temps. C'est pas très dur comme question parce que sinon, imaginez que la réponse avait été non, ça n'aurait eu aucun sens. Si vous voulez, Muammar Kadhafi, on se doute bien. Ah oui, alors donc, le premier lauréat de ce prix Muammar Kadhafi pour le respect des droits humains a été décerné à Nelson Mandela. Et le dernier, ça c'est intéressant, à Erdogan en 2010.
Ah oui.
Il y a eu une petite déperdition depuis. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Au Japon, à la fin du XVIIIe siècle, dans le département de Fukushima, certains moines qui adhéraient au mode de pensée Shingon, dérivé du shintoïsme, pouvaient pratiquer l'auto-momification. Vrai ou faux, Stéphane? Ça, je sens que vous n'y avez pas pensé. Vous avez pensé à beaucoup de choses, mais l'auto-momification, je sens que c'est quelque chose qui ne...
Vous pourriez vous faire auto-momifier, Stéphane, pour prendre les devants, comme un pharaon.
Non, vous ne voyez pas.
Vous avez...
Les Japonais sont parfois surprenants, Stéphane. Marre de cette vie matérialiste? Votre travail vous ennuie? Votre mariage bat de l'aile? Alors, auto-momifiez-vous. Voilà comment faisaient les moines. Pendant 3 ans, ils ne mangeaient que des noix. Encore pendant 3 ans, ils ne mangeaient que des aiguilles de pin. Puis, ils buvaient la sève toxique de l'arbre urushi qui sert normalement à laquer des meubles. Puis, on emmurait vivant le moine en position du lotus. Sympa. Il devait faire tinter une clochette tous les jours. Si elle ne sonnait plus, c'est qu'il était mort. Donc, beaucoup de moines Shingon ont essayé, mais peu y sont parvenus. C'est sympathique d'occuper sa vie à essayer de mourir comme ça, auto-momifié, Stéphane. Là, quand même, peut-être que
oui,
la psychiatrie
c'est une recherche de pureté qui passe par des...
Pas les aiguilles de pain,
par
ça
des
tout, pas,
oui, ça devait être bien dégueu, mâcher des aiguilles
c'est mieux,
de
on
pain.
Me dit que c'est mieux que White Watchers, pour perdre du poids, en revanche, là, vous avez perdu 3 kilos en combien de temps, Stéphane? C'était une petite confidence que vous aviez fait en antenne.
Oui, mais...
Oui, donc en un mois, quasiment, là, ça fait très peu de temps.
C'est très bien. C'est pas 3 ans d'auto-momification aux épines de pain.
Essayez les épines de pain, à mon avis, vous aurez un summer body inouï pour le mois de juillet. Question numéro 4.
Merci du conseil.
Pour vous, Clémentine. Pour vous, je crois que vous êtes à égalité. On me précise les scores. Stéphane à 0 et Clémentine qui avait -1 est repassée à 0. Donc 0 partout. Question numéro 4, Clémentine. Revenons à la politique intérieure française. C'est pas possible, c'est la question la plus complète. J'ai honte de la poser. Noël, ma mère, est née un 25 décembre. Vrai ou faux?
Moi, je crois que c'est vrai.
Ah, c'est bien. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Noël. Écoutez, peut-être que vous, votre maman, a une idée différente, mais... Écoutez, je ne suis pas dans une intimité suffisante avec Noël, ma mère, pour pouvoir m'étendre sur sa date anniversaire. Je répondrai oui, sinon je répondrai oui. Ce serait bien.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Clémentine. Longtemps maire de Bègles, où il a célébré le premier mariage entre personnes du même sexe, député français, député européen, Noël Mamère est né un 25 décembre 1948. Et moi qui croyais le connaître, et effectivement, je découvre qu'on l'a appelé Noël parce qu'il est né un 25 décembre. Et si on se faisait quand même la petite dernière, même si... Mais elle vaut...
Le cadeau bonus.
Allez. Elle vaut 3 points. Tout peut basculer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Question numéro 5. Miss France 2021 est Amandine Petit. Elle était avant cela Miss Normandie. Mais en 1935, la Miss France a été destituée 2 heures seulement après son sacre. Mais pourquoi donc? 3 propositions. Parce qu'elle était française mais pas née en France. Parce que des photos d'elle en maillot de bain 2 pièces existaient. Parce qu'elle est tombée de l'estrade et a démissionné d'elle-même, ne pouvant pas remplir toutes ses obligations dans la foulée de son élection.
Réponse 1.
2.
Parce que des photos d'elle en 1935.
Non, je crois qu'en
1935,
elle n'était pas née en France. C'est la contemporaine.
Il fallait donner une autre réponse si j'avais dit 1.
Ah, vous l'avez fait comme ça
par stratégie. J'ai fait par stratégie.
Ah oui, c'est la vitesse. Beau.
Ou par stratégie. Non, c'est une bonne réponse de Clémentine qui va remporter ce quiz. Elle était française, mais née en Allemagne, dans la Sarre.
C'est l'année de l'élection, je pense, de la Begum, Stéphane. C'est pourquoi j'ai
la Begum, c'est 31.
Et elle a aussi été, parce qu'elle a été Miss Lyon, elle a été Miss France, elle a été Miss Europe. Et à la faveur d'une lecture sur la Begum, je me souviens avoir lu cette histoire de Miss qui avait été démise de son titre.
Et voilà, en 1919, le traité de Versailles détache la Sarre de l'Allemagne. Plus tard, un référendum rend finalement la Sarre à l'Allemagne, mais la Miss décide de garder la nationalité française. Au moment du sacre de cette Miss, invective, bousculade dans le public, devant les broncas, Elisabeth Pitts jette l'éponge au profit de Gisèle Préville, Miss Paris. Voilà, une page d'histoire se tourne. Et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte
victoire.
Merci beaucoup.
Miss Paris.
<rire> 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui, chaque après-midi, vous raconte l'histoire sans se la raconter autour de 3 personnages souvent farfelus et en compagnie d'un 4e qui l'est encore plus. Mathieu, aujourd'hui, on rend hommage au grand prof de philo de l'histoire.
Oui, Stéphane, et c'est important de tomber sur un bon prof de philo. Certains ont eu la chance d'avoir Aristote. Moi, j'ai eu vous. J'ai moins bien réussi qu'Alexandre le Grand. Pourtant, certaines de vos citations sont au moins aussi puissantes que celles d'Aristote dans la métaphysique, notamment quand vous dites...
Mais, vous savez, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ne le vivez pas comme une épreuve. Vivez-le comme une chance.
Télé 7 jours, 8 avril 2016.
Oh,
et là, Stéphane, certains profs de philo sont moins positifs que vous. Hein.
Oui, je vais vous parler d'un prof assez sombre, assez pessimiste sur la nature humaine. Un certain Arthur Schopenhauer qui a écrit le seul livre de philo au titre que je ne suis pas encore sûr d'avoir saisi. Le monde comme volonté, comme représentation. Das Welt als Wille und Vorstellung. Sacré personnage, vous allez voir.
Vous le tenez mieux en allemand.
Même si, Mathieu, vous ne serez pas en reste avec votre troisième personnage, le contemporain de l'étape, j'allais dire, Michel Leeb.
Michel Leeb, oui, mais non pas Michel Leeb, l'imitateur de génie.
Les téléspectateurs français, attendez, je vais prendre une photo de vous tous. Attendez, nous allons vous emporter au pays du soleil levant.
Imitateur de génie qui a tant influencé l'humour d'Olivier Pouls. Non, Michel Leeb, le prof de philo qui a enseigné dans les années 80.
Oui, et sans oublier, justement, puisque vous parliez de nos chroniqueurs, et bien ces excellentes chroniques. D'abord, David Castel-Lopez qui remonte aux origines. Et bien, c'est parfois une invention, une mode, une habitude.
Mais c'est toujours un objet du quotidien.
Oui. Ouais. Et là, c'est les cacahuètes, en polystyrène expansé, pardon, qui permettent d'emballer les choses quand on les envoie par la poste, voyez.
Mais on voit, mais est-ce que c'est vous qui les avez intitulés les cacahuètes?
Oui, ça s'appelle, pourquoi ça s'appelle des cacahuètes?
En fait, c'est
ça n'a pas la forme vraiment.
En anglais, on appelle ça des packing peanuts.
Ah oui, donc. Oui.
Et donc, ça vient de l'anglais un petit peu.
Packing peanuts.
Je sais le faire, vous voyez.
Oui, vous savez faire tous les accents.
Moi, je préfère dire packing peanuts.
Ah oui, plus anglais.
À la british.
Plus voilà. Peut-être encore aller à l'autre bout du monde pour trouver l'inventeur. C'est une idée pour voyager, non?
Voilà.
Peut-être.
Et toujours en business. C'est important. Oui. Pourquoi le budget d'Europe? Bref, Olivier Pouls, vous nous parlez gastronomie. Chaque jour, l'origine
D'un plat.
D'un plat, d'une recette qu'on aime aujourd'hui.
C'est des morceaux de viande qu'au bout d'une pique, on trempe dans de l'huile bouillante.
Ça s'appelle la fondue bourguignonne quand j'étais gamin, mais j'adorais ça, vous n'avez même pas idée.
C'est fini ?
C'est quand même pas le plat le plus diététique qui soit. D'autant que quand j'en mangeais chez ma grand-mère, elle accompagnait ça de frites. Alors vous imaginez un peu la bombe que je ne peux plus malheureusement.
Vous êtes contre.
Ah, mais j'adorerais pouvoir le faire encore, et avec de la mayonnaise par-dessus le marché. Je vous raconterai d'où ça vient, mais bizarrement, pour une fondue bourguignonne, elle ne vient pas de Bourgogne.
Le mot de la fin reviendra à Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'une expression ou d'un mot. Aujourd'hui, une coquille dans un texte. Quand il y a une petite erreur, on dit ah, tiens, il y a une coquille, mais d'où ça vient ?
C'est vrai qu'on utilise toujours cette expression, mais d'où ça vient cette coquille ?
Je ne m'étais jamais posé la question.
Bah justement, je suis là pour répondre aux questions que personne ne s'est jamais posées.
C'est ça qui est magnifique avec vous, Stéphane. Mais tout de suite, sonnez le tocsin. Tous vos neurones doivent être réunis et en ordre de marche pour affronter la pensée parfois complexe, mais passionnante, d'un des plus grands penseurs du 19e siècle. Arthur Schopenhauer, Stéphane Bern, cette rencontre que la philosophie n'attendait plus, c'est tout de suite en exclusivité sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est sans doute injuste, mais on associe rarement philosophie et grosse poilade. Quoique je vous prouverai le contraire tout à l'heure avec Michel Leb. Mais reconnaissons que ce n'est certainement pas lui qui me contredira. Stéphane Bern nous raconte Arthur Schopenhauer. Haut les cœurs.
C'est vrai qu'il n'y a pas de philosophie plus noire et plus désabusée que la sienne. Sur le papier pourtant, Arthur Schopenhauer naît au moment idéal pour connaître une existence riche d'expériences. Oui, il voit le jour en 1788 à Danzig, en Prusse. Autrement dit, sa vie commence à la charnière entre le 18e et le 19e siècle, dans une Europe dont les équilibres vont être profondément bouleversés par la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Arthur grandit entre sa mère Johanna, élevée dans la plus grande tradition de la culture classique, et son père Heinrich, de 20 ans plus vieux que sa femme, un commerçant qui arpente toute l'Europe pour faire des affaires. Et il y a déjà là une déchirure. Plus Arthur grandit, plus il s'intéresse aux arts et à la philosophie, alors que son père n'a qu'une idée en tête, en faire son héritier, un grand négociant européen. C'est même à cette ambition que Schopenhauer doit son prénom, Arthur, qui a l'avantage de se prononcer à peu près de la même façon dans toutes les langues, Arthur. Il va falloir un drame pour résoudre le problème. En 1806, le père d'Arthur meurt noyé sans qu'on sache bien s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Pour Arthur, 18 ans à peine, le choc est rude. Mais il y retrouve aussi une forme de liberté. Il abandonne le commerce pour les lettres et la philosophie à Weimar, puis à Berlin et enfin à Iéna où il publie sa thèse en 1813 de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, Mathieu. Vous savez, ça se lit comme un peu là.
Ah oui, comme un Marc Lévy.
Plus sérieusement, l'année suivante, Arthur coupe les ponts avec sa mère et part s'installer seul à Dresde pour y travailler sur sa grande œuvre « Le monde comme volonté et comme représentation » publiée en 1819. C'est un échec absolu, mais force est de reconnaître que ce n'est pas l'ouvrage le plus optimiste du monde, mais bien le plus désabusé. « La race humaine, écrit Schopenhauer, est une fois pour toutes et par nature vouée à la souffrance et à la ruine. Pourquoi ? C'est bien simple, parce que tout sur Terre est une illusion et qu'à l'échelle de l'individu, rien ne justifie le moindre espoir. La seule chose de certaine, c'est que l'homme, que l'instrument d'une volonté désincarnée, celle de la vie, de la nature, qui n'a qu'un but, se renouveler. Et pour y réussir, cette volonté, cette puissance naturelle, crée une illusion constante. L'amour, la passion, même le sexe, pour Schopenhauer, ne sont jamais qu'une ruse, un faux-né qui vient déguiser le plus banal des instincts de reproduction. Oui, le même que chez la grenouille ou le cochon. En fait, c'est pire. Pour notre espèce, il y a un prix à payer. Pourquoi ? Parce que, pour ne rien arranger, l'homme a le malheur d'avoir des ambitions, une envie d'absolu et de grandeur. Mais il n'y a pas de grandeur, pas d'absolu, pas de Dieu, juste l'absurdité de l'existence. Vivre, c'est plonger dans une insatisfaction permanente et osciller entre la souffrance et l'ennui. Bon, la seule solution pour Schopenhauer, ce n'est même pas l'art, même si la beauté peut consoler un bref instant l'homme de sa triste condition. Évidemment, ce n'est pas le genre de discours qui fait sensation dans les soirées de Berlin ou de Francfort, mais surtout ce pessimisme n'est pas du tout dans l'air du temps. La première moitié du XIXe siècle, c'est celle des révolutions et du renversement des ordres établis. L'histoire est en marche, mais Schopenhauer répète à l'envi qu'elle n'a aucun intérêt. L'histoire, pour lui, n'est que le long rêve, le songe lourd et confus de l'humanité. Et comme Schopenhauer ne se prend pas tout à fait pour n'importe qui, et qu'il a quand même un certain goût du sarcasme et de la provocation, il décide à 32 ans seulement de s'attaquer à la star absolue de la philosophie européenne, son aîné Georg Friedrich Hegel, le grand maître de l'université de Berlin, le génie de la philosophie universitaire, de la philosophie allemande, peut-être de la philosophie tout court. À l'université de Berlin, Hegel affirme exactement le contraire de Schopenhauer dans ses cours. Pour lui, il y a une raison à l'œuvre dans l'histoire, un but. Non seulement Schopenhauer décide de se confronter à Hegel, qui est à ses yeux un charlatan plat, sans esprit, répugnant et ignorant, dont la pensée n'est qu'une colossale mystification, mais il choisit de donner son cours exactement les mêmes jours, aux mêmes heures que son concurrent. Un cours qu'il annonce, modestement. Écoutez plutôt. Arthur Schopenhauer exposera toute la philosophie, c'est-à-dire la théorie de l'essence de l'univers et celle de l'esprit humain. Et là encore, c'est un échec. Alors que le moindre cours de Hegel attire 200 étudiants, Schopenhauer peine à rassembler 5 personnes très exactement au premier semestre et 0 au second. Bon, le coup est rude. Il a beau demander à ses quelques amis de surveiller les endroits où l'on parle de lui dans les livres, les journaux, les revues littéraires, rien ne se dit. Schopenhauer, qui avait déjà, vous l'avez compris, un certain don pour le pessimisme, tombe malade dans la dépression probablement et dans une forme d'isolement qui va durer 30 ans. Dès 1823, Schopenhauer vit seul à Francfort en rentier célibataire. Il joue de la flûte le matin, promène son chien l'après-midi, travaille et se baigne une fois par jour, peu importe la saison, dans la rivière locale, le Main. Et c'est tout. Sa misanthropie atteint des sommets, son écriture devient de plus en plus sarcastique. Pour lui, personne n'a rien compris à son génie et il n'attend rien d'un public qu'il résume à une foule de singes. Ce qu'il attend, c'est l'après. Il reste convaincu que la postérité saura lui accorder le mérite qui lui revient. C'est un peu paradoxal, mais il a raison. Schopenhauer va bel et bien connaître la gloire, et elle ne sera pas seulement posthume. Vers 1850, le pessimisme caustique de Schopenhauer commence à attirer le public, et son influence n'arrête pas de grandir. On le lit, on le réédite, on le commente, on l'étudie. Même si son influence ne sera jamais aussi puissante qu'au début du XXe siècle, chez Proust, Maupassant, Kandinsky ou chez Kafka, il peut voir monter cette estime pendant les 10 dernières années de sa vie, jusqu'en 1860. Vous croyez que ça le rendait heureux? Bah pas du tout. Schopenhauer se compare alors à un technicien de théâtre, un de ses ouvriers qui traîne encore sur le plateau quelques instants avant le début de la pièce. Il écrit « Je suis un attardé, un survivant, alors qu'on donne déjà la comédie de ma gloire ». Le 21 septembre 1860, Schopenhauer quitte la scène sur un dernier acte à son image. Dans son testament, il lègue la plupart de ses biens à son chien, un caniche prénommé Atma. Pour le plaisir, on citera en guise d'épitaphe une de ses dernières remarques aussi grinçantes que lui. « Que bientôt les vers doivent ronger mon corps, c'est une pensée que je puis supporter. Mais que les professeurs rongent ma philosophie, cela me donne le frisson. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Arthur Schopenhauer, ce prof de philo qui n'a pas eu beaucoup d'élèves dans ses cours, nous sommes avec Hugo Battini, lui-même prof de philosophie en classe prépa à Paris à l'université de Poitiers. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Vous avez quelques élèves dans vos cours, rassurez-nous.
Oui,
plus,
oui.
Plus que Schopenhauer, ça marche mieux.
Oui, oui.
Vous pouvez dire que vous avez plus de succès que Schopenhauer, ça c'est beau. On parle de lui, vous lui avez consacré notamment un dictionnaire, le dictionnaire Schopenhauer. On en parle avec vous dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
T'as qui toi en philo? C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement Vôtre. On parle donc des profs de philo de l'histoire avec Schopenhauer. Stéphane nous a dressé un portrait haut en couleur de ce grand pessimiste.
Un peu noir.
En couleur un peu sombre de ce grand pessimiste qui était Schopenhauer. On en parle avec un autre prof de philo, plus optimiste lui, Hugo Battini.
Oui, Hugo Bettini, vous avez publié « Qui es-tu, Schopenhauer ?» paru l'an dernier aux éditions du Cerf. Vous répondez à la question en 196 pages. Je l'ai raconté en quelques lignes. Si on devait résumer en un mot, ce serait lequel ? Le pessimisme qui le caractérise le plus ?
Le pessimisme, c'est plus la tonalité de sa philosophie. Mais le mot qu'il résume le plus, vous l'avez cité, c'est « volonté ». Volonté, c'est le principe sur lequel repose toute sa philosophie. Alors, le piège, c'est qu'il ne faut pas y voir forcément, comme nous, on entend la volonté, une faculté de choix. Non, c'est une force aveugle, pulsionnelle, qui va faire que l'homme est plus, malgré ce qu'il se pense, il se pense comme un être rationnel et en réalité un animal.
Quand c'est pas son pessimisme, c'est son cynisme qu'on retient, ses petites phrases assassines, ou sa fin solitaire avec Atma, son seul compagnon qui était un caniche. C'est un poil caricatural quand même de voir Schopenhauer comme ça.
Oui, ça correspond au daguerréotype. C'est les dernières photos qu'on a, ces plaques photographiques, où on trouve quand même, on voit un peu l'ironie de la photo, il est toujours un peu mi-souriant, mi-sombre, mais en réalité, ça cache ce qu'est réellement Schopenhauer, c'est-à-dire l'homme qui a écrit Le Monde comme volonté et comme représentation, il a 30 ans.
Il est encore très jeune.
Il est extrêmement jeune et du coup, cette espèce de gloire posthume, on pourrait dire en quelque sorte, va complètement éliminer cette image-là.
Mais justement, quand vous êtes devant vos élèves, Hugo Bettini, comment vous l'abordez, Schopenhauer ? Quelle est la première chose que vous avez envie de leur raconter ?
Déjà que c'est génial. j'en suis intimement convaincu. Et puis, il y a quand même cette idée que Schopenhauer va faire basculer l'histoire de la métaphysique. Il va la relancer à partir du corps. Il va ouvrir une voie qui va être suivie par des penseurs qui sont beaucoup plus connus que lui, finalement, c'est-à-dire Nietzsche, mais aussi Freud. Voilà.
Alors, Stéphane l'a raconté, on ne peut pas dire que la vie lui ait fait de cadeau. Vous pensez que sa philosophie aurait été autre s'il avait été reconnu dès la trentaine et l'apparition de son œuvre majeure, Le Monde comme volonté, comme représentation, ça aurait changé sa philosophie ou pas du tout? En fait, c'est quelqu'un qui restait toujours dans les rails de sa philosophie, il n'en a pas démordu.
Franchement, presque pas une virgule aurait changé. Ouais. C'est vraiment assez saisissant. On a son journal de voyage. À l'époque, c'est très connu, les jeunes bourgeois font une sorte de tour d'Europe. Donc, il va traverser la France avec sa mère, donc Johanna, mais qui est aussi une très grande romancière, qui va connaître beaucoup de succès. Ce qui n'est pas, à mon avis, c'est lié aussi à la brouille qu'il va avoir avec sa mère, cette espèce de succès qu'elle a immédiatement, que lui n'a pas. Et donc, tous les deux, on a leur carnet. Et il y a quelque chose, il y a un événement qui est assez perturbant, c'est la visite du bagne de Toulon. C'est-à-dire que Schopenhauer a 16 ans, et il fait l'intuition, à mon avis, c'est vraiment l'intuition de sa pensée là, où il perçoit que c'est un monde de souffrance. Et à l'inverse, on voit sa mère qui décrit des hommes musclés sous le soleil de Toulon. Et on est frappé par l'opposition entre ces deux textes.
Entre deux visions.
Et donc, moi je pense que Schopenhauer, il a une qualité rare, c'est qu'il est capable de voir le tout dans la partie. Et donc, il devine déjà à 16 ans, il a cette espèce d'intuition que la souffrance, enfin que la vie est faite de souffrance et d'ennui.
Il n'aurait pas lu quelques textes bouddhistes aussi, parce que le bouddhisme Theravada, le bouddhisme essentiel, c'est quand même aussi que la base de tout, c'est que le monde est souffrance et qu'il faut essayer de s'échapper de ce cycle de souffrance.
Exactement, c'est d'ailleurs un des penseurs qui va faire connaître le bouddhisme. Il le connaît à peu près, enfin, c'est un peu avant le monde. Il rencontre un texte assez bizarre qui s'appelle L'Upnekat, qui est en réalité un texte très étrange avec des commentaires très idéalistes de la philosophie indienne plutôt que du bouddhisme. Mais après, il va vraiment se prendre de passion pour la figure de Bouddha. Et il aura même, c'est connu dans son appartement, une sorte de Bouddha qui fait dorer à leur faim. C'est un précurseur.
Il n'était pas tout à fait extrait des contingences de ce monde, puisqu'on va parler d'Hegel dans un instant, mais vous citez dans votre livre un historien dont on taira le nom, qui décrit Schopenhauer comme un professeur sans élève, un écrivain sans lecteur. Il écrivait et il enseignait pour la postérité, au contraire.
Peut-être il était forcé, puisqu'il n'avait pas le succès au moment présent, mais c'est vraiment injuste comme considération, parce que dans le fond... Il a eu des lecteurs parmi les plus grands, Nietzsche, donc c'est pas le moindre des disciples. Et puis, vous en avez parlé dans la présentation, tous les artistes vont immédiatement s'attacher à son œuvre parce qu'il va, révéler d'une certaine façon une nouvelle vision de l'homme qui avait besoin d'émerger. Voilà.
Schopenhauer réduit l'homme à son animalité, on en a parlé, que ce soit en société ou dans le couple. C'est quand même un peu cinglant comme conclusion. Vous pensez qu'il était excessif, notamment dans la conception de l'amour ? C'est pour ça qu'il reste seul toute sa vie ?
Il est très connu pour cette conception. Et donc, du coup, on le voit à travers ça. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même un peu séparer l'homme de l'artiste, si on veut, quelque part. Il a été amoureux. On retient deux femmes. Une femme qui ne l'a pas véritablement aimé, une femme avec qui il est resté pendant une dizaine d'années. Mais je pense que ça n'a absolument rien à voir avec le point de départ de sa philosophie. C'est juste sa conception de l'amour est cohérente avec son intuition. C'est-à-dire qu'on est un être de pulsion. Et donc, l'amour est une sorte de sentiment éthéré qui cherche à cacher ce que l'on cherche derrière, c'est-à-dire la reproduction de l'espèce.
Cela dit, l'histoire est tragique et lui a donné raison. Parce que ce pessimisme, c'est différent avec Hegel, par exemple, sur le sens de l'histoire. C'est vrai que le XXe siècle a été terrible. Les deux guerres, la folie meurtrière et concentrationnaire. En fait, il a eu raison.
Bah, malheureusement, oui. moi, je le considère, c'est Abby Warburg qui dit ça de certains personnages qui sont des sismographes très puissants. Il pressent la secousse bien avant et livre immédiatement cette image dont les artistes vont se saisir. Et justement, je pense qu'effectivement, le XXe siècle va lui donner raison.
Ouais. Pardon, mais j'ai une question qui dépasse Schopenhauer, qui est sur la philosophie dans son ensemble. On voit là, contre Hegel, on peut dire que finalement, l'histoire lui a donné raison. En tant que prof de philo, je sais que vous ne direz jamais ça. On a l'impression qu'on étudie tous les philosophes et on les met tous sur un piédestal. On dit que tous ont apporté leur pierre à la construction philosophique. Mais par exemple, qu'est-ce qui reste de Hegel et de la, je sais pas, de, qu'est-ce qu'on disait d'Hegel, le plan caché de l'histoire, tout ça, enfin, tout ça, qui y croit encore ou qui pense que c'est une philosophie plus intéressante que celle de Schopenhauer?
Alors pas moi déjà,
oui, mais
Hegel c'est monstrueux, c'est-à-dire c'est monstrueux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que il est capable par son système d'absorber conceptuellement la totalité du réel. C'est l'inverse de Schopenhauer qui lui est plus quelqu'un de l'ordre de l'intuition. Il pressent et essaye d'éclairer ce qu'est pour lui le monde. Après, ce qui reste d'Hegel, il y a quand même, en particulier du côté de l'État, sa conception politique, qui fait que c'est quand même un auteur majeur.
En tout cas, merci Hugo Bettini. Je rappelle votre ouvrage pour tout connaître.
Il y en a deux.
Sur la, oui, il y a qui es-tu Schopenhauer et puis le dictionnaire Schopenhauer.
Oui.
En tout cas, avec tout ça, on sent que vous avez quand même un tropisme vers Schopenhauer plus que vers Hegel. Ça, c'est indubitable. Merci en tout cas d'être venu nous parler de Schopenhauer.
Merci.
On aura très envie de relire.
Alors, il faut commencer, je pense, par le livre d'Hugo Bettini parce que c'est bien de commencer par là pour avoir une petite explication avant d'entamer directement Le Monde comme volonté, comme représentation, qui est quand même un petit peu technique. Hein, au
c'est
début,
l'avantage
quand on se
des profs d'histoire, c'est des profs de philosophie, c'est qu'ils nous donnent envie de réfléchir et ensuite de lire les philosophes.
Exactement.
On doit les remercier pour ça.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces profs de philo qui ont marqué l'histoire. Après Aristote et Schopenhauer, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai, n'est-ce pas, de Michel Leeb. Car oui, on ne le sait pas, mais Michel Leeb, avant d'être Michel Leeb, a été prof de philo.
Oui, portrait un peu particulier aujourd'hui, peut-être partial, car si je vous parle, c'est en ma qualité de membre de l'ACAM LMUPH, l'association de ceux qui aiment Michel Leeb, mais qui ont quand même un petit peu honte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, regardons les choses en face, hein, parce que l'humour de Michel, en tout cas l'humour qu'il a rendu célèbre dans les années 80, a à peu près aussi mal vieilli que, disons...
Brigitte Bardot.
Non, n'exagérons pas non plus, Stéphane, vous êtes un peu dur, mais disons que oui, certains de ses sketchs, notamment celui de l'épicier africain et sa fameuse punchline, c'est des hommes lunettes, c'est ça, mes narines, ne pourrait plus être présenté tel quel en prime time à la télévision. Ben oui, surtout Victor de la Musique avant un live d'Isolt. Aujourd'hui, un sketch de Michel Leeb, c'est un peu comme une statue de Colbert. Il y a besoin d'une notice explicative pour recontextualiser. Notice qui dirait « Attention, ce sketch a été conçu à une époque très différente de la nôtre. Une époque où l'on pouvait fumer des gitanes sans filtre en voiture avec ses gosses sans ouvrir les fenêtres et sans les attacher. Une époque où tout le monde adorait Bernard Tapie, la pub Banania et Thierry Hazard. »
Ah oui, c'était le bon temps.
Ça, je ne vous le fais pas dire. Alors, pour nos auditeurs de la génération Z, il y en a...
18.
À peu près. Alors, les jeunes. Michel Leeb, c'est le père du chanteur Tom Leeb, le beau gosse qui devait représenter la France à l'Eurovision l'année dernière, mais qui s'est vu épargner la honte de la défaite par la grâce du coronavirus qui a entraîné l'annulation de l'événement. On a eu chaud. You are quoi, on sait pas. C'est comme s'il cherchait une rime qu'il n'avait pas trouvée. Bon, vous me connaissez, je suis pas du genre à juger, ni à dire du mal, surtout en ce qui concerne une prestation artistique dont l'appréciation est par définition subjective, et on peut tout à fait dire que c'est bien.
En utilisant ce qu'on appelle le mensonge.
Voilà, merci David. Oui, dans la famille Leeb, moi, je préfère Michel. Mon côté old school, ça me rappelle mon enfance, quand j'allais l'applaudir avec mes parents au casino de Genève. L'apogée du spectacle était alors...
Bonjour, monsieur le vendeur.
Bonjour, monsieur l'acheteur.
Monsieur le vendeur, je voudrais 3 tonnes de pommes de terre.
Je ne peux pas te donner 3 tonnes de pommes de terre, imbécile. Il faut que tu recommences. Comment veux-tu que j'ai 3 tonnes de pommes de terre dans mon réduit ?
Alors, évidemment, aujourd'hui... Voilà, 7 secondes de sketch et déjà 22 SMS de Rokhaya Diallo. Les temps ont changé et visiblement un mâle blanc aisé qui singe un Africain en effectuant des grimaces simiesques, ça choque un peu. Je comprends. Il y a d'ailleurs belle lurette que Michel Leb ne joue plus le sketch de l'épicier ou celui gratiné, lui aussi, du touriste chinois qui a d'ailleurs encore ses fans aujourd'hui.
En ce moment, on peut parler comme ça.
Oui. Alors, au vu de ce rapide résumé de Michel Leb, vous êtes en droit de vous interroger quel rapport avec Aristote et Schopenhauer. Eh bien, il y a un point commun entre Aristote, Schopenhauer et Michel Leb.
Disparu lui aussi.
Non, un autre point commun, c'est fan. Il a été comme eux prof de philo. Alors, je sais que c'est étonnant, mais au fond, pourquoi un humoriste ne pourrait pas exceller en philosophie? Vous, Stéphane, vous êtes animateur et vous excellez bien dans l'humour.
J'étais pas né, comme une escalope. J'étais comme une escalope, pas né.
C'est bon de rire, disait Bergson. Un précepte que le jeune Michel-Édouard Nicolas Leb, né en Allemagne en avril 47, va vite comprendre. Fils d'un ingénieur en métallurgie et d'une mannequin d'origine italienne, il sortira de la Sorbonne avec une maîtrise de philosophie, matière qu'il a donc enseignée ensuite pendant un an et demi à Bourg-la-Reine, au cours Florian. Alors pourquoi seulement un an et demi d'enseignement? C'est Michel qui nous l'explique. « Je me suis fait virer par le directeur parce que mes méthodes d'enseignement n'étaient pas très orthodoxes. » Pas très orthodoxe comment, mon Michou? Eh bien, par exemple, pour expliquer l'allégorie de la caverne de Platon, je prenais un accent grec et tout le monde se marrait. Connaissez-vous l'allégorie de la caverne, Stéphane? Les hommes seraient pareils à des esclaves enchaînés qui travailleraient nuit et jour dans une cave sans jamais voir la lumière du jour. Et ils ne connaîtraient le monde que les reflets des ombres projetées au fond de leur grotte, prenant donc pour la réalité ce qui n'est qu'une illusion. Allégorie considérée comme la source de l'idéalisme philosophique qui a suscité beaucoup de commentaires, parfois longs, comme ceux de Spinoza, parfois plus synthétiques.
Ah, les Grecs!
C'est votre analyse, Stéphane. Certains estiment néanmoins que c'était rudement bien vu. Bref, Michel Leb sera un prof de philo aussi atypique qu'éphémère. Après avoir été remercié par sa direction, il se tourne vers la comédie. C'est sans regret qu'il abandonne ses polycopiers, ses boîtes de craie blanche, ses craies de notre enfance, qui produisent ce son que doit adorer David. Hein, elle crie. Rien que le mot crisser est irritant. Hein. Michel tâtonne un peu jusqu'à la rencontre providentielle avec un certain Charles Aznavour, qui est bluffé par sa prestation dans le sketch de Jerry Lewis, La machine à écrire. Un sketch que Michel Leb reprend, dans ce sketch, il mime un sténodactylo en plein effort, tapant virtuellement sur sa machine au tempo de la musique. Et emballé, Aznavour propose à Michel Leb de devenir sa première partie. Sa carrière est lancée, aidée aussi, il faut le rappeler, par une pub de qualité pour la célèbre marque d'insecticide Bégon.
On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font.
Où ses talents d'imitateur, notamment d'animaux, font déjà merveille. Mais pourquoi se contenter d'imiter des mouches tsetse et des bourdons quand on peut aussi se foutre de la gueule des Belges et des Chinois? Cette capacité à restituer les accents du monde entier sans jamais tomber dans la caricature deviendra sa marque de fabrique.
Nous sommes reçus en Tunisie, en Algérie, au Maroc.
Ouais, c'est un très content de tout ça. Vous voulez les arbres de Noël déguisés, les boules
partout. On redescend maintenant, on va vers l'Afrique noire.
Oui, alors je voudrais dire à tous nos amis.
Attends.
Au Japon, en Chine, au pays du soleil levant. Alors.
Et c'est bien vrai.
Qu'est-ce qu'on se marrait quand on était raciste? Vous, Stéphane, ça ne vous choque pas?
Non, ça ne vous choque pas
parce que vous faites partie de ces gens qui estiment qu'on peut rire de tout, même de l'embonpoint de nos invités. Vous l'avez encore prouvé l'autre jour avec Patrick Duguemelin, qui n'a pas fait le voyage pour rien.
Disons qu'on se sent mince à côté de vous.
Voilà, votre seule limite, ça j'ai noté, c'est l'église. Alors là, ça déconne pas. L'autre jour, vous avez même voulu, ça vous arrive hyper rarement, qu'on refasse une séquence.
À l'image de celui où Ponce Pilate écrit à Tibère qu'il regrette beaucoup d'avoir fait crucifier Jésus-Christ. Je vais refaire parce que je ne peux pas rire sur la crucifixion.
Ah non, il y a quand même des limites. En revanche, la fois où vous aviez dit que c'était pas grave si Vlad l'Empaleur avait empalé 10 000 ennemis parce que, je cite, c'était des Turcs, là, vous n'avez pas demandé à refaire la séquence. Comme quoi, l'humour, c'est vraiment question de point de vue et d'époque aussi. C'est ce qu'on peut retenir avec Michel Leb qui, depuis les années 2000, s'est astucieusement tourné vers un humour beaucoup moins post-colonial, plus musical. Son grand kiff, diriger un big band de jazz et créer un spectacle total mélangeant musique et humour. Il sera un pionnier de ce genre hybride. D'autres suivront, même si parfois le mélange musique et humour sera involontaire.
Je voudrais chanter n'importe quoi.
On embrasse Elie Semoun. Michel Leb, lui, continuera sa carrière tranquillou. Depuis une vingtaine d'années, il vit à Opède-le-Vieux. C'est pas un jeu de mots, c'est le nom d'un très joli petit village du Luberon. Il y a même organisé un festival pour récolter des fonds afin de restaurer la petite chapelle du village dans laquelle il s'est marié en 2000. Peut-être un moyen de se faire pardonner ça aussi.
Ah non, ça, comme on dit chez nous, plus on est de fous, moins il y a de riz.
Oui. Ok, je sais pas plus diffuser ça aujourd'hui sans s'excuser. C'est dommage, car comme disait Machiavel, il disait « la fin justifie les moyens » et Bergson disait « le rire est la salutaire suspension temporaire du cœur ». Finalement, Peu importe comment ce rire est atteint, seul le résultat compte. Allez David, une petite dernière pour la route. Je sais que vous aussi, comme tous les hipsters, vous êtes nostalgiques de cet humour des années 90.
C'est quoi un cochon qui rigole? C'est un porc-tout gay?
C'est bon de rire, c'est personne qui avait raison.
Merci beaucoup Mathieu, c'était à 99% vrai.
Oui, oui. J'étais presque à 100% vrai, à part les trucs sur vous. Parce que c'est vrai que j'étais, moi quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Michel Ende.
On l'était tous.
Alors, mais oui, c'est bizarre parce que mes parents, ils allaient plutôt voir Bedos normalement, mais on allait voir Michel Ende. Effectivement, il n'y avait pas cette question de se dire.
Mais on savait, il n'y avait jamais aucune méchanceté. Ni...
Ah non, mais,
moi j'aimais bien quand il faisait l'accent belge. Les Belges, on prenait ça très bien.
En fait, il n'y a pas de racisme.
Mais personne ne pense que Michel Ende est raciste. C'est juste une autre façon de penser.
Aujourd'hui,
ça passe plus du tout.
Ça passe plus du tout. Absolument.
On l'embrasse, Michel.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces profs de philo qui ont marqué chacun à leur manière l'histoire de la philosophie. Nous entrons maintenant dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, c'est celle où on interroge le présent, bon à la lumière du passé, mais c'est le présent qui nous intéresse.
Et pour tenir la bougie, nos enquêteurs de choc, à commencer par Olivier Pouls. Tout à l'heure, à l'issue de notre très beau sujet sur Schopenhauer, on avait un invité en plus, un prof de philo qui parlait très bien de Schopenhauer. Pouls est entré dans le sujet en disant « Moi, je préfère quand même la fondue bourguignonne ». Ça situe un peu le personnage, voilà.
Exactement.
Et essayez de vous nourrir avec du Schopenhauer.
Je vous assure que ça permet de maigrir.
Oui, ça c'était un bon conseil minceur. Privilégiez Schopenhauer. Oui. Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez, comme d'habitude.
Mais oui, parce qu'en imprimerie, dans un livre ou dans un journal, pour dire qu'il y a une erreur, on dit qu'il y a une coquille. Bah, d'où ça vient?
On a le droit de faire des paris? Non. Ça risque de, si on a la bonne réponse, ça va déflorer votre chronique. Tant pis, j'ai une petite idée. Tout de suite, David Castello-Lopez, les origines des cacahuètes d'emballage. Alors là, on est très très loin dans le n'importe quoi, mais c'est intéressant, c'est ce qui permet de ne pas casser les objets de valeur qu'on
Exactement.
Envoie.
Exactement, on appelle ça aussi des particules de calage.
Des particules de calage.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le béton armé. L'amiante, voilà des jolis matériaux. Mais aujourd'hui, nouveaux matériaux que nous allons découvrir avec vous, David Castello-Lopez. Vous nous entraînez aux origines des cacahuètes d'emballage.
Tout à fait. Alors Mathieu, Stéphane, Olivier, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. On ne peut pas aborder sérieusement l'histoire des cacahuètes d'emballage sans aborder avant cela l'histoire beaucoup plus riche du polystyrène expansé.
Ah ben bien sûr.
Le polystyrène expansé, c'est le matériau qui sert donc à faire les cacahuètes d'emballage, mais aussi l'isolation des maisons sous la forme de plaques blanches qu'on met dans les murs, vous savez, et aussi ces formes blanches qui épousent parfaitement dans la boîte les objets électroniques que vous achetez de façon à les protéger pendant leur transport.
Les bouteilles de vin aussi.
Exactement. Alors le polystyrène expansé, c'est un polymère. C'est quoi un polymère? C'est un matériau fait de grosses molécules qui sont elles-mêmes faites de plein de petites molécules qu'on appelle des monomères. Et oui, vous mettez plusieurs monomères ensemble,
polymères.
Ça fait des polymères. Exactement. Le polystyrène, généralement, ça se présente sous la forme de toutes petites billes fines comme du sable, auxquelles on ajoute un produit, puis on chauffe le tout avec de la vapeur. Et là, les billes, elles gonflent comme des bâtards, et donc ça donne ces fameuses cacahuètes d'emballage. Il y a des vidéos sur Internet, au passage. Si, comme moi, vous aimez la magie de l'industrie, je pense que vous serez séduit. Je vous les conseille. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y avait avant les cacahuètes d'emballage? Eh bien, avant, j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma chronique sur le papier bulle. Avant, quand on voulait protéger des choses fragiles, on mettait de la sciure de bois, du papier déchiré ou même du pop-corn. Pour certains aux États-Unis. Mais toutes ces choses-là, elles avaient deux inconvénients.
Cool, parce qu'on peut le manger après quand on reçoit le colis.
Tout à fait. Toutes ces choses-là, elles avaient deux inconvénients. Un, elles étaient assez lourdes. Or, plus un emballage est lourd, plus il est cher à transporter. Et deux, c'était un nid à vermine, ce qui également est nul. Et là, au début des années 60, est intervenu un chimiste américain qui s'appelle Maurice Zweigle Laverne. Il est toujours vivant, il a 95 ans. Maurice, il travaillait pour les plus grosses entreprises de chimie au monde, Dow Chemicals, qui est connu entre autres pour avoir fourni à l'armée américaine le napalm dont elle était servie au Vietnam. Et Maurice, donc, il faisait des expériences avec du polystyrène expansé. Et visiblement, il a commencé par utiliser juste des sphères en polystyrène. Mais les sphères, ça marchait pas top parce que l'objet glissait à l'intérieur du carton et se retrouvait au fond et donc pas protégé par d'autres sphères et donc pas bien. Et donc Maurice, il a eu l'idée de faire des petits tubes d'une quinzaine de centimètres de long en polystyrène.
polystyrène qu'il appelait des spaghettis d'emballage. Et ça marchait beaucoup mieux que les boules parce que les spaghettis se prenaient les uns dans les autres et formaient une sorte d'assise qui permettait à l'objet de ne plus glisser au fond du carton. Il a testé son invention en mettant un œuf dans un carton rempli de spaghettis en polystyrène. Il l'a jeté du troisième étage. L'œuf ne s'est pas cassé. Et en 1961, les premiers spaghettis d'emballage en polystyrène, donc, ont été commercialisés aux États-Unis. Petit à petit, on s'est rendu compte que c'était mieux que les spaghettis soient plus petits, notamment parce que les spaghettis avaient tendance à se coincer dans les machines qui les versaient dans les cartons. Et donc, on est passé aux cacahuètes. Aujourd'hui, quand même, c'est plus très à la mode, il faut le dire, les cacahuètes d'emballage, parce qu'il y a souvent des produits chimiques pas top qui sont utilisés dans la fabrication. Et aussi, c'est pas très biodégradable, même si celle que j'ai commandée sur Internet pour les besoins de cette chronique et que j'ai amenée ici en studio, apparemment, c'est marqué qu'elles sont biodégradables. Je sais pas, pour m'en assurer, j'en ai mis deux dans la terre de mes plantes sur le balcon, et je vais attendre et je vous dirai dans quelques mois si elles se sont biodégradées. Parce que je suis sûr que vous mourrez.
Encore une belle expérience.
Voilà, vous mourrez d'envie de savoir. En attendant, je vous propose de vous donner quelques-unes chacun. Voici Olivier Pouls pour vous.
Ah oui.
Mathieu, quelques-unes aussi. Ah oui. Attendez, alors je suis un petit peu loin de vous.
Alors on voit.
David, évidemment, est totalement pervers, m'a dit tout à l'heure je t'en donne, tu essaieras de les faire brûler chez toi. Tu vas voir, c'est très drôle.
Je
vous
en donne aussi.
Hyper
Stéphane,
bien.
Est-ce que ça va marcher? Voilà. Et alors, ce que je vous conseille maintenant, pour vous amuser, on se connaît ça du papier bulle, on sait moins ça sur les cacahuètes d'emballage. Pressez-les. Et regardez, elles vont... Attendez, sur certaines en tout cas, elles explosent. Regardez comme c'est agréable.
Oh, c'est
regardez
très agréable.
Ça, regardez. Ah, ouais. Voilà, donc je vous conseille pour vos heures de solitude l'hiver.
C'est très désagréable pour l'auditeur, monsieur Mariton. Voilà. Mais comment ça? Mais l'auditeur peut prendre du plaisir avec nous.
Exactement.
Ce son est très très agréable, moi je trouve, personnellement.
Et alors on les fait brûler aussi.
Et on peut aussi les faire brûler. C'est assez fascinant, j'ai approché un briquet hier soir en préparant cette chronique. ça brûle immédiatement. C'est-à-dire que quand vous approchez une flamme, la flamme imprime sa forme sur la cacahuète d'emballage.
C'est bon pour les incendiaires amateurs.
On peut composer à travers vos chroniques un portrait de votre vie. Oui. On imagine la soirée, la journée, la soirée. C'est voilà. Vraiment sympa.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Alors, les cacahuètes, c'est bon pour l'apéro, mais après l'apéro, il va falloir attaquer le plat de résistance, une bonne fondue bourguignonne aujourd'hui. Mais d'où ça vient?
Bah oui, mais pas de Bourgogne finalement.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire, c'est aussi l'histoire des plats qui font notre quotidien. Parmi ces plats, Olivier Pouls, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de la fondue bourguignonne.
Mais vous savez, un de ces plats qui brouille les pistes, hein, comme la sauce béarnaise ne vient pas du Béarn, comme le champignon de Paris ne vient pas de Paris. Eh bien, figurez-vous que la fondue bourguignonne ne vient pas de Bourgogne. Mais d'où peut-elle bien venir? Alors, je vous rappelle que le principe de la fondue, c'est-à-dire tremper des aliments dans un liquide très chaud, c'est ancestral. On a fait ça depuis toujours, en utilisant différents produits, différents ingrédients et différents liquides. Bon, la fondue bourguignonne, elle a une particularité, c'est que dans le petit caquelon, on met de l'huile et on y plonge quoi? De la viande. Alors, qui a bien pu avoir cette idée et surtout la baptiser fondue bourguignonne? Parce que ça, on le sait de manière très précise.
Ah, donc les gens ne sont pas bourguignons? Mais ils l'ont baptisé fondue bourguignonne.
C'est né dans un restaurant en 1947.
Alors, ah oui, c'est récent.
Propriétaire de ce restaurant.
J'étais sûr que c'était beaucoup plus ancien.
Non. Il s'appelle Georges Eisenwein. Il est propriétaire du café Bock dans une ville que vous devriez connaître.
On est à Lausanne.
On est en Suisse. Et alors,
c'est les Suisses qui ont inventé la fondue bourguignonne.
Eh oui. Alors pourquoi ils l'appellent fondue bourguignonne? Parce que finalement, on pourrait se dire, il aurait pu appeler ça fondue suisse. Il y avait déjà la fondue au fromage, mais tout simplement parce que il utilise des produits qui eux sont d'origine bourguignonne. Il utilise de la viande charolaise qui vient de Bourgogne et la sauce qu'il met à l'époque avec, c'est de la moutarde de Dijon.
Ah,
donc produit bourguignon, il appelle ça de la fondue bourguignonne.
Et tout part de là.
Alors évidemment après le succès étant, le plat va se populariser et va se disséminer un petit peu partout. Il va arriver en France un petit peu plus tard, dans les années 50-60 parmi nous, avec là aussi la nécessité d'inventer un petit appareil qui va permettre de faire soi-même cette fondue bourguignonne chez soi à la maison. C'est le petit caquelon qui repose sur un support et en dessous du support, on met une bougie de manière à... En tout cas, un petit brûleur.
Un brûleur.
bougie suffit pas.
Un brûleur à alcool. Vous n'allez pas manger très tôt.
Voilà. Et l'huile, elle ne va pas être chaude.
Et alors, moi, je me souviens, on avait une tradition, c'était chez mes grands-parents, on faisait donc chauffer le caquelon, on l'emmenait, et puis on prenait des morceaux de viande qu'on découpait en morceaux. Alors, morceaux de viande tendre.
Qu'est-ce qu'on prend comme
alors,
viande?
Filet contre filet, rump steak. Alors, il y a deux morceaux que j'adore. Il faut les demander à son boucher.
Parce le paleron.
Non, le paleron, ça, c'est justement, c'est un morceau qu'il faut mijoter, qu'il faut confire très longtemps.
J'ai
non, mais la poire ou le merlan, par exemple, sont des morceaux un peu méconnus, mais qui sont vraiment très, très bons. Alors, quel est l'intérêt, finalement, d'avoir cette huile et de tremper la viande dedans? Eh bien, c'est de provoquer très rapidement ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est-à-dire que l'huile, elle a une faculté par rapport à l'eau, c'est qu'elle peut monter beaucoup plus haut en température. La fondue bourguignonne avec de l'eau, vous pouvez toujours essayer. Mmh. On dépasse pas les 100 degrés, donc vous n'arrivez pas à saisir la viande. Alors que une huile, justement, dans ce caquelon, elle va monter à 140, 150, 180 degrés parfois. Et à 180 degrés, vous avez instantanément ce qu'on appelle la réaction de Maillard, du nom d'un chimiste qui a démontré cette réaction au début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle la caramélisation des protéines. C'est donc cette petite croûte qui va se former instantanément à la surface de la viande, au contact de la chaleur, et qui va donc d'abord développer des saveurs, et puis surtout donner tout son intérêt à cette fondue. Alors je sais pas c'est comment vous êtes, mais moi je sais que c'est pas plus de 3-4 secondes pour préserver.
Ah bon, non, j'aime bien.
3-4 secondes, vous plongez la viande, 3-4 secondes, vous la
sentez. J'aime bien que l'intérieur reste totalement cru.
Ah oui, d'accord, alors on est sur du tataki là.
Moi j'adore faire des croûtons de viande, c'est-à-dire des trucs qui sont durs comme du bois et qui croquent sous la dent, enfin quand j'étais petit en tout cas.
Et alors vous les faites éclater après entre...
Vous, Stéphane, combien de secondes?
Ah, moi, c'est beaucoup plus long. J'aime la viande bien cuite.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai réduit la viande rouge. Donc
c'est vrai. L'astuce pour bien la réussir, c'est évidemment à chaque fois de prendre une huile neuve. On la réutilise pas.
Pourquoi
neuve? Parce que l'huile, au plus on la cuit, au plus on la chauffe, au plus elle se dégrade. Elle va donner des mauvais
goûts. Qui aurait l'idée de prendre une huile usagée?
Vous pouvez la laisser dans
les frites. Pour les frites, on laisse l'huile dans la friteuse.
Oui, on la change pas systématiquement. Il n'y a que vous qui la changez systématiquement.
Ah oui, moi, je change l'huile à chaque fois.
5 litres d'huile à chaque.
En Suisse, ça avait la réputation, pardon, quand on avait son poêlon comme ça avec de l'huile chaude, que ça pouvait être dangereux s'il y a eu des accidents de fondue bourguignonne.
Ça peut être dangereux parce qu'à cette température, l'huile est hautement inflammable. Donc, si vous la laissez dégringoler et qu'en plus il y a la flamme de votre brûleur à côté, ça peut être la catastrophe. Ce que je vous recommande, c'est donc de prendre de l'huile neuve à chaque fois, c'est moins odorant aussi, et puis de plonger dedans quelques aromates, vous mettez un petit bâton de thym par exemple, une petite branche de thym, un petit peu de laurier.
Mais c'est pas moins dangereux.
Non, c'est pas du tout moins dangereux.
C'est le conseil de sécurité d'Olivier Pouls. Voilà, et puis prenez un bon Saint-Joseph avec, mettez-le très près de l'huile bouillante, ça sera parfait.
En revanche, le dernier problème lié à cette fondue, et ça malheureusement je peux rien y faire, c'est que ça va réellement pourrir votre appartement, parce que de l'huile chaude chez vous là, je peux vous garantir qu'il
la
va falloir
la
penser à
vous,
repeindre.
Alors, plutôt chez vous.
Non, mais je pensais venir
chez Olivier.
Tous chez Olivier pour manger une bonne fondue bourguignonne avec donc de l'huile neuve à chaque fois et de la viande neuve aussi. C'est important de le préciser. Non, mais comme vous êtes tous visiblement des pinces, tout doit être nouveau.
C'est plus léger que la fondue savoyarde avec le pain trempé dans du fromage.
Alors, en termes de calories, c'est quand même assez conséquent quand même, même s'il faut bien reconnaître que, en fait, la viande est moins grasse qu'on pourrait le penser. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il se passe, quand vous plongez la viande dans l'huile, ce qu'on appelle le phénomène d'osmose inverse. C'est-à-dire que la viande, sous la pression amenée par la chaleur et par l'huile, va expulser l'eau qu'elle contient. C'est les petites bulles que vous voyez, c'est la fumée qui s'échappe. Et à ce moment-là, l'huile ne peut pas rentrer, parce que comme l'eau sort, l'huile ne peut pas rentrer. Et alors, quand vous la sortez, quand elle redescend en température, là, elle va se mettre à absorber un petit peu d'huile, d'où l'intérêt de l'éponger ou en tout cas de bien l'égoutter de manière à pas manger trop gras.
Je savais pas que t'étais chimiste aussi. Je sais pas si c'est du bluff, mais en tout cas, on y a cru. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Olivier.
L'osmose inversée.
On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et là, ce qu'on va retrouver, c'est le mot de la fin de Stéphane, l'explication d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, un mot qu'on emploie très souvent. C'est vrai que dans un texte, on dit souvent, tiens, il y a une coquille.
Il y a une coquille. D'où ça vient?
D'où ça vient? Coquille.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque jour, l'histoire d'un mot ou d'une expression, c'est le mot de la fin avec vous, Stéphane Bern.
Ah, c'est à moi, pardon. Attendez, Mathieu. Non, mais donnez-moi encore deux secondes parce que je vérifie qu'il n'y ait pas de coquille dans mon texte.
Tiens, une coquille.
Justement.
D'où vient
cette expression ?
Quel acteur ! En plus, il y a eu le regard caméra. Enfin, c'est moi la caméra. Tout à coup, la tête se tourne, le regard. Tiens, en fait, une coquille. Je suis ébloui par vos talents d'acteur, Stéphane. La comédie française peut aller se raviller. Bref, il y a une coquille, il y a une erreur, souvent une faute de frappe, une lettre à la place d'une autre. C'est vrai qu'à la base, c'est plutôt une expression qu'on emploie dans l'imprimerie.
Oui, c'est exactement l'origine de cette expression. La première fois qu'on en trouve trace, c'est dans un livre qui fait référence, publié en 1723, « La science pratique de l'imprimerie » de Martin-Dominique Fertel, imprimeur de Monseigneur l'évêque de Saint-Omer. Les choses se passaient comme suit. Le typographe alignait des caractères piochés dans une boîte en bois. Et même en étant très attentif, il arrivait que les lettres ne se retrouvent pas dans les bonnes cases de la boîte.
On ne sait toujours pas d'où vient la coquille.
Alors, deux légendes cohabitent, mon cher Mathieu. Première hypothèse, on nettoyait les plaques d'impression avec du blanc d'œuf. Et malencontreusement, des petits morceaux de coquille d'œuf restaient collés sur les plaques. Cela bougeait les lettres et ça provoquait donc des coquilles.
Ah, ça doit être ça.
Bon, il y a une autre, explication, une deuxième hypothèse, un peu plus grivoise, je vous préviens, qui devrait vous plaire, mon cher Mathieu. Un jour, au journal officiel, le mot coquille devait être écrit. Et la lettre Q fut oubliée. Alors, prenez chez vous une feuille, un crayon, écrivez coquille, gommez le cul, et si vous me permettez l'expression, et vous verrez apparaître ce qui constitue l'autre partie du corps humain, c'est-à-dire le service trois pièces masculin. Bref, l'histoire a fait grand bruit et l'expression coquille est restée. Oui, si vous enlevez coquille de coquille,
ben oui,
si vous enlevez cul, il reste quoi?
Couille! Ah, mais bien sûr!
On ne révèle jamais les jeux de mots, c'est le principe des contrefaîtries, mais David ne connaît pas ça, ce n'est pas dans sa culture. Le mot couille a été lâché, alors il avait enrobé tout ça.
J'avais enrobé tout ça
pour qu'on reste élégant jusqu'au bout. Aujourd'hui, historiquement vôtre, fut la première émission de l'histoire de l'audiovisuel à réunir dans une même thématique Aristote, Schopenhauer et Michel Leeb. Trois profs de philo, trois styles. Vous les amis, est-ce que vous avez eu un prof de philo au lycée qui vous a marqué ?
Au lycée Carnot, j'avais de très bons profs de philo et enfin surtout en terminale puisque c'est la seule année.
C'est la seule année où on a la philo, ce qui est quand même aberrant.
Aberrant parce qu'au fond, on devrait avoir plus de philosophie parce que c'est l'école de la vie finalement.
C'est l'école de la vie, exactement. Stéphane, vous les amis, des profs de philo marquants ?
Oui, il s'appelait Daniel Bruel, si je me souviens
Bruel,
bien.
Bruel, le frère de Patrick.
Et moi, Monsieur Bellassène, qui était un petit peu obscur quand même, c'est-à-dire que à part les trois personnes vraiment très très fortes au premier rang, personne ne comprenait vraiment
c'était
ce qu'il
compliqué.
Disait.
Moi, j'embrasse Monsieur Cousin. C'est grâce à lui que j'ai fait quelques études après le lycée parce qu'il m'a poussé. Sinon, je serais peut-être pas, peut-être resté en Suisse tranquillement. Hein, j'aurais toujours accent. Demain, Stéphane, une idée du programme. Est-ce qu'il faut relire Nietzsche ?
Déjà, on peut relire Nietzsche. Je vous invite déjà, si vous aimez les profs de philo et typique, à regarder la série La Faute à Rousseau, qui est diffusée ce soir, notamment sur France 2. Benjamin Rousseau, c'est le nom du prof de philo. Alors, pour parler de inutile de relire Nietzsche, demain, on réunit, vous savez, Mathieu, trois personnages qui sont tombés de haut. Peut-être comme vous au bac de philo, ceci.
Si vous appelez 17 tombés de haut, je pense que ça devrait aller.
Ah oui.
Eh oui, mon Stéphane.
Ah oui.
Parce que vous avez oublié de nous dire votre note tout à l'heure. On avait lancé le défi.
En philo, j'ai dû avoir 12, je crois.
Non, mais ça reste. Ça reste
correct. Carnot, vous savez.
Ah
ça
oui,
reste.
C'est Carnot. Oui.
Enfin, le bac, on ne sait pas duquel lycée ça vient.
Dites tout de suite que j'ai lycée au rabais.
Bon, on réunit demain un révolutionnaire qui est mon ancêtre, Robespierre, comme vous le savez, Maximilien de son prénom, le président Richard Nixon et l'affaire du Watergate.
Et le parachutiste sauteur de l'extrême Félix Baumgartner qui a sauté de 39 km de haut. Il a même franchi le mur du son pour l'occasion.
Il est tombé de très très haut.
Mais volontairement.
Alors à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.